Je vais essayer, dans un deuxième temps, de balayer assez vite trois chantiers, trois sujets. D'abord, vous dire en un mot les cinq modèles économiques que je crois avoir écrits, c'est ce que j'ai écrit dans un petit livre donc, sur les modèles économiques du logiciel libre. Cinq modèles parmi lesquels on a des exemples parmi les entreprises qui se sont présentées. Et puis, trois communautés, nous formons une de ces communautés, et puis surtout, deux énormes problèmes qu'il faudra résoudre si on veut que la route tourne. Alors, c'est en essayant de regarder l'histoire, comment le logiciel se développe, qu'on commence à comprendre les différents modèles. En fait, ils sont tous présents en même temps, ces modèles, aujourd'hui, mais ils ne sont pas arrivés n'importe comment, ce ne sont pas les mêmes acteurs qui les ont apportés, ce n'est pas les mêmes intérêts qui les guident et ce n'est même pas la même informatique qu'ils produisent. Alors, regardons-les arriver de manière diachronique à travers le temps, chronologique. Alors, à la fin du siècle dernier, au milieu des années 80, se développe sous le nom de Free Software, c'est Richard Stallman, c'est l'arrivée de la GPL. C'était même avant les initiatives de l'Université de Berkeley avec l'ISD. C'est l'idée que l'informatique est naturellement ouverte, comme les mathématiques. Et au sein du monde académique, on va voir se développer une informatique qui est naturellement ouverte, qui d'ailleurs préexiste avec l'informatique propriétaire que nous voyons aujourd'hui. Pour ceux qui ont vécu la fin des années 70, on se souvient que dans les années 70, les revues d'informatique étaient pleines de codes, on partageait du code naturellement, et puis soudain, on ne partage plus. Les revues qui partageaient du code ferment, et on voit arriver une sorte d'informatique qui nous semble, et qui semble à certains naturel, et qui en fait paraît à d'autres complètement étrange, exotique, une informatique propriétaire. Parce qu'effectivement, il y a un frein. Cette informatique libre, ouverte, ne parvient pas à convaincre de son intérêt pécuniaire, les grands acteurs qui commencent à voir une autre manière de gagner de l'argent sur du logiciel. Et donc, un frein qui est l'idéologie. Nous sommes dans une ambiance de geeks qui ne pensent pas à l'argent, qui développent pour le fun, ou qui sont des acteurs de l'université, qui ne se demandent pas pourquoi ils sont payés ni pourquoi, simplement qui font comme des scientifiques et qui partagent naturellement. Et puis, un accélérateur possible qui est l'intérêt. L'intérêt qu'il y aurait à ouvrir, mais d'abord, les acteurs de l'université ne le voient pas. Alors, c'est au tournant du siècle que Éric Raymond écrit La cathédrale et le bazar, pour dire ça. Sa surprise d'abord. Lui, quelqu'un qui aime coder et qui découvre que le mode bazar fonctionne. Il n'y croyait pas. Il n'y croyait pas et il découvre que en mode bazar, ça marche très bien. Et il comprend l'intérêt qu'il peut y avoir en termes de développement et de production, l'intérêt qu'il peut y avoir pour les entreprises. Alors, comment ce qu'on n'a pas fini d'entendre, c'est-à-dire ce nouveau mot open source. Ce n'est plus free software, c'est open source. Il s'agit de séduire les entreprises pour leur dire ce qu'ils font avec les cheveux longs, avec des sandales et en jouant du pipeau, on peut le faire aussi en costume cravate et avec de l'argent. Et donc le deuxième moment, c'est le début du XXIe siècle. C'est ce moment où l'industrie va s'emparer de ce développement ouvert de logiciels, ce nom d'open source, en constituant une nouvelle communauté, la communauté des marchands, en laissant derrière elle un débat ouvert entre free software et open source. Vous savez, dans toutes les guerres, il y a des gens qui s'entretuent dans le maquis pour savoir qui va défiler sur les Champs-Élysées. Nous sommes quelques-uns à penser que le plus urgent est quand même de mettre l'ennemi dehors. Et donc, ici, ce débat d'arrière-garde, on n'aperçoit pas qu'un nouvel intérêt apparaît, qui n'est plus l'intérêt de développer en général sur les couches basses, pour des objets très fondamentaux, des protocoles, excusez du peu, mais les informaticiens de la fin du XXe siècle ont développé Internet quasiment à base d'outils ouverts. On ne s'aperçoit pas que ce n'est sur une autre couche logicielle, avec d'autres intérêts, que cette nouvelle communauté, communauté cette fois de marchands, va se constituer. C'est plus le même intérêt, c'est plus le fun, ce sont des économies de R&D. Autour de la fondation Apache, par exemple, autour de W2, on va voir des acteurs qui faisaient un peu la même chose tous, qui réinventaient la roue dans leur coin, se dire, mais plutôt que de réinventer la roue, faisons-le ensemble. Et non plus sur l'informatique basse, non plus sur les protocoles, mais sur du middleware, de l'intergiciel, de temps en temps, il vaut mieux utiliser l'anglais pour être compris. Cette nouvelle communauté développe ensemble du code. La fondation Apache, c'est quasiment le même budget que la DULAT, hein, c'est une sorte de coquille qui permet à des gens de se retrouver pour faire ensemble, pour développer ensemble, plutôt que de développer tout seul. Donc un autre intérêt, et puis une nouvelle communauté, et puis un nouveau segment de l'informatique qui se libère. Alors, l'inconvénient, et certains des acteurs ici ont insisté sur le fait que c'est du logiciel libre, vraiment libre. Il paraît qu'il y a des logiciels libres qui collent un peu au fond, on a du mal à voir le code réel. Il se trouve qu'il y a une autre communauté qui attend. Une autre communauté qui attend, qui est la communauté des clients. Parce que pour rien vous cacher, quand on prend le point de vue des clients, et certains des prestataires le savent, on entend pique-pendre du logiciel libre, ou de l'open source. Oui, on nous dit que c'est de l'open source, mais quand on regarde, ça a la couleur de l'open source, la valeur de l'open source, et le prix du propriétaire. Certains nous disent que c'est quelquefois pire que le propriétaire, parce qu'il y a même des systèmes qui s'arrêtent quand on a fini de payer. Donc ici, on est sur un risque, qui est un risque pour le client. Et ce qu'on observe, et nous avons été des acteurs parmi les premiers à l'observer, ce qu'on observe, c'est qu'il y a une troisième communauté qui arrive. La communauté des clients. La communauté de ceux qui payent. Un client, c'est un utilisateur qui paye. Dans le monde du libre, on dit l'utilisateur est au centre. Nous sommes quelques-uns à penser que l'utilisateur qui paye, c'est bien aussi. Et qu'on pourrait se préoccuper du cochon de payeur, celui qui a cette folie de payer pour ce qu'il utilise. Ces utilisateurs qui payent ne sont pas toujours seuls. Et depuis longtemps, ils forment des clubs utilisateurs. Ils ont l'habitude de demander à un éditeur de faire pression au sein du club utilisateur pour ajouter des fonctionnalités, corriger des bugs. Là, ils sont sur la possibilité de reprendre la main sur les solutions métiers. Sur un autre segment, c'est plus l'intergiciel, c'est plus le middleware, c'est les solutions métiers. On est passé des couches basses, et petit à petit, l'informatique se libère. C'est maintenant une troisième communauté qui arrive, la communauté des utilisateurs métiers. Alors, si on voulait détailler, on s'apercevrait que c'est d'abord dans la sphère publique que cette conscience se fait. Mais sachez-le, dans le privé, c'est déjà commencé. Dans les banques, dans la grande distribution, ils le font déjà. Ils le diront bientôt. Pour l'instant, ils ne le disent pas, mais ils le font déjà. Quand vous passez un code-barre dans un magasin, la plupart du temps, c'est Linux qui tourne derrière. Donc ici, on est devant une prise de conscience que jusqu'au bout de la chaîne, eh bien, toute l'informatique pourrait être faite. Alors, le frein pour arriver à cette troisième étape, c'est pas l'argent, c'est pas le droit, c'est pas la technique, c'est la gouvernance. Faire ensemble, travailler ensemble, développer ensemble, piloter ensemble des projets, c'est pas simple, c'est même très compliqué. Et ce que nous avons appris en 10 ans, c'est surtout ça, que c'est la question de la gouvernance qui est centrale. Comment faire ensemble, comment faire durer un projet et le piloter, comment celui qui initie le projet peut capitaliser sur les dépôts de manière itérative, comment on peut continuer ensemble. Ça, c'est très compliqué, c'est de l'humain, c'est de la psychologie, c'est du management, etc. Par contre, il y a un accélérateur, il y a quelque chose qui permet d'aller plus vite. C'est qu'on retrouve la, la philosophie ouverte des premiers temps, c'est qu'on est en sympathie avec ceux qui, dans les universités, ceux qui ont l'esprit public et qui pensent que l'informatique doit être ouverte. Et on peut dire qu'autour de 2005-2006, bien, les choses sont assez claires. Partout dans le monde, on commence à penser que, et en particulier dans la sphère publique, il y a des clients qui peuvent jouer un rôle pour développer, pas simplement pour utiliser, parce que utiliser, on ne peut utiliser que ce qui existe. Je me souviens en 2004, lorsque Paris a adhéré à la DULAT, certains disaient, mais il suffit d'une décision politique pour que Paris adhère à la DULAT. Je trouvais ça très drôle, parce que pour le logiciel de gestion du patrimoine de la ville de Paris, il n'existe pas encore en libre. Et le temps de le faire, c'est un petit peu de temps, et donc il ne suffit pas de dire, on passe au bout. Est-ce que ça existe hein? Une gestion financière, une RH, ce n'est pas exactement trivial, et donc il ne faut pas simplement utiliser, il faut développer. Notre problème, ce n'est pas d'utiliser ce qui existe, c'est bien, il faut surtout développer ce qui n'existe pas. Et ce qui n'existe pas dépend de nous. Nous ne sommes plus dans un monde où nous devons attendre que quelqu'un réponde pour nous, mais nous devons le faire. C'est ce conflit qui reste entre un monde qui fonctionne encore sur le même mode que le progiciel, parce que finalement, les économies de R&D que font les acteurs propriétaires, sans nous le dire, parce qu'ils font tous de l'open source entre eux, mais ils font du propriétaire pour nous, ils font tous de l'open source entre eux sur le même mode que le progiciel, c'est-à-dire faire une mutualisation par l'offre, alors que là, il faut renverser la charge et nous dire, eh bien, c'est à nous de le faire, et sans nous, nous ne pourrons pas disposer des applications métiers vraiment ouvertes et intéressantes. Alors, je vais passer assez vite sur les modèles économiques qu'on peut détailler, et ils arrivent dans un certain ordre. Le premier, c'est ce qu'on pourrait appeler le modèle académique, c'est-à-dire un modèle fondé sur la science. L'argent ne se voit pas, les gens sont payés pour produire du savoir ouvert. Les gens sont payés tous les jours pour produire des mathématiques, de la physique, de la chimie, de l'informatique au passage. Et ça paraît naturel. Alors quand on sort de l'université, on cherche à valoriser. Vous savez, c'est l'étudiant qui est un peu vieilli, qui monte une spin-off et qui va vouloir valoriser. Son rêve, c'est de vendre le plus cher possible son système justement à quelques grandes entreprises. Lui, il part au Galapagos, il arrête l'informatique. Et il a réussi à faire sortir de l'université son produit vers l'industrie. Si on regarde de près, un très grand nombre de projets libres ont leur source encore dans les universités, sont gérés. En PostgreSQL, par exemple, il y a des solutions de ce genre qui sont d'abord des solutions qui ont été créées dans des labos et qui servent à enseigner l'informatique. Ce modèle spin-off est extrêmement instable. Il faut vendre le plus cher possible, le plus vite possible, parce que très vite, eh bien, on est concurrencé par ses propres amis. Et le deuxième modèle stable qui arrive, c'est le modèle que j'ai dit tout à l'heure, celui d'un consortium de marchands, une mutualisation par l'offre, qui va permettre de développer d'autres couches avec un autre intérêt. Le modèle éditeur est un modèle instable. Certains anticipent sur la suite, certains se disent, mais sur le logiciel métier, il y a quelque chose à faire. Et ils vont prendre ce risque, c'est très difficile, de prendre le risque d'investir dans du développement. C'est très difficile parce que quand on investit, on a tendance à vouloir devenir propriétaire, il faut se refaire. Et donc certains prennent ce risque, certains vont tomber dans le piège et devenir finalement propriétaire, ils ne vont pas jouer le jeu, c'est là qu'il y a du faux libre. Et puis certains vont réussir à faire du libre quand même avec quelque chose qui a été investi en modèle éditeur. Il préparait sur le logiciel métier, il donnait fin aux acteurs, en particulier aux acteurs publics, pour faire communauté en se disant, mais c'est vrai, sur le logiciel métier, on peut aussi ouvrir le code, partager et définir ensemble. Donc c'est cette mutualisation par la demande, ce dernier étage de la fusée que nous constituons. Sans lequel la roue ne peut pas tourner. Donc, 5 modèles économiques, 3 communautés. Ces 3 communautés sont extrêmement différentes. Dans le maquis, il y a 3 groupuscules. Les hackers bénévoles, ceux qui ne veulent pas trop entendre parler d'argent, ceux qui on développe pour le fun, ceux qui s'intéressent au protocole, au code bien fait, des gens très paradoxaux. Richard Schallmann et Eric Raymond n'ont pas du tout les mêmes idées politiques dans la vie, par contre, ils adorent coder. Donc des gens tout à fait bizarres, qui sont pas du tout du même monde que les marchands d'open source, et qui ne sont eux-mêmes pas du tout du même monde que ceux qui sont les clients. Je me souviens un jour à Paris, à la fin d'une conférence, j'avais dit on avancera le jour où on arrêtera de se dire main dans la main, client et prestataire, nous guide, nous guide, on est tous des amis du livre. Non, on n'a pas les mêmes intérêts. Celui qui vend du logiciel et celui qui l'achète n'a pas les mêmes intérêts. Et on fera des progrès en se disant non pas qu'on est du même monde, mais que la rencontre d'un prestataire intelligent et d'un client intelligent, ça fait du bon livre. Donc ici, des conflits qui auraient intérêt à être clarifiés afin que chacun puisse faire fonctionner l'écosystème. Parce qu'en fait, il y a encore deux problèmes. C'est pas parce qu'on a construit la possibilité de libérer toute l'informatique, toute la chaîne. On voit que le tsunami pourrait emporter tout, mais il reste encore deux problèmes majeurs à résoudre. Le premier problème, il n'inquiète pas assez. Alors, je suis désolé, c'est un vieux libéral qui vous parle. Il n'y a plus que les libéraux pour parler de Marx maintenant. Trop de travail non payé. Voilà une exclamation de Karl Marx. J'entendais à Genève un éminent collègue philosophe qui réfléchissait sur la pollinisation. L'analogie avec les abeilles est très souvent utilisée, mais c'est une catastrophe. Parce que si on y réfléchit bien, les abeilles font du miel. Les apiculteurs récoltent le miel et la rétribution ne va pas à la contribution. Autrement dit, les abeilles font du miel pour les autres. Alors sans doute c'est bien, oui, mais il faut faire ça pour l'humanité. Il reste que quand on a 20 ans, on peut faire du code en mangeant des pizzas le soir. À un moment, il faut payer son loyer. Alors, il y a quelques années, quand je disais ça, on me disait « on n'a rien compris ». Puis au fur et à mesure du temps, les gens vieillissent. Quand j'ai dit ça à Genève, à des gens qui, il y a quelques années, me disaient « Mais arrête de parler de ça, nous, on est très contents de manger des pizzas », ils sont finalement très contents, ils disent « Oui, oui, on voudrait être payé pour ce qu'on fait ». Et donc, il y a un vrai problème, qui est que nous ne pouvons pas dire, même si on le voit, nous ne pouvons pas dire que l'informatique est en train de se libérer massivement en disant aux gens « Voilà, 80% des gens qui sont dans le propriétaire vont bientôt revenir dans le giron de l'informatique libre et enfin, ils ne seront pas payés. » On ne peut pas leur dire, c'est pas possible. Donc le changement d'échelle ne marche pas. Premier problème, donc, il faut organiser la circulation de la production de manière à ce qu'on soit payé pour ce qu'on produit. C'est pas simple. C'est pas simple parce que ça impose un problème de mesure. Comment mesurer ce qui est fait? Dans le monde des universités, on sait l'intérêt qu'il y a à produire en amont. On sait l'intérêt qu'il y a à payer un prof de maths ou un chercheur en maths sans savoir ce qu'il va faire. En informatique, il faut apprendre comment financer en amont celui qui va développer, corriger un bug, écrire une documentation. Il faut inventer. Mais il faut arrêter de supposer. De supposer, comme Eric Raymond, que le chaudron magique va produire sans cesse quelque chose. Non, le chaudron magique, il n'est pas si magique. Et d'ailleurs, si vous lisez bien deuxième article d'Eric Raymond, le chaudron magique, il se pose une question bizarre, il se dit, imaginons les gens qui font du bois, qui sont des scieries, imaginons que les scieries veuillent se coaliser pour fabriquer des logiciels qui gèrent les scieries. Et Eric Raymond dit, c'est ridicule. Pas ridicule. C'est justement ça qui permet d'expliquer le chaudron magique. Le chaudron magique ne marchera que quand tous les utilisateurs métiers paieront pour en amont fabriquer les produits qui leur sont utiles. Alors il y a un deuxième problème, c'est que la roue ne tourne pas encore. L'existence de code ouvert crée du service, beaucoup de services. Mais le service ne produit pas de code, très peu de code. J'étais à Genève début juillet avec des gens qui sont dans le logiciel libre depuis très très longtemps. Même avant l'arrivée de Linux, enfin les gens qui avaient vu arriver le logiciel libre vers 85-86, des historiques. Et qui me disaient que leur grande inquiétude, c'est que le code ne remonte pas. C'est d'essayer de dire, bien sûr, le bouton vert download, c'est bien, mais upstream, il faut remonter. L'inquiétude, c'est que dans les projets, la communauté, alors on parle toujours de la communauté pour se rassurer, pour se réchauffer, mais une communauté, la communauté moyenne sur SourceForge, c'est 1, quelque chose personne, c'est moins de 2. Quand une communauté fait moins de 2 personnes, c'est pas encore une communauté. Et en fait, les communautés nombreuses sont très rares. Les retours des utilisateurs sont très rares. Posez-vous la question, combien de demandes d'amélioration, combien de propositions de patch, combien de rapports de bugs vous avez produits pour tous les objets libres que vous utilisez. J'espère que le vin blanc était bon ce midi, ça évite d'y penser, mais on se dit heureusement que les autres sont là pour le faire. Et donc il y a ici un vrai problème, c'est qu'il faut absolument, pour que la retour, que des systèmes contractuels au sein des sociétés de services, les intégrateurs qui utilisent des briques, eh bien, sachent que ça dépend aussi d'eux que les produits continuent à exister. Sinon, la roue s'arrêtera de tourner.